Chapitre 70. Je crois que je commence à accepter l'idée qu'il puisse ne pas revenir. Les mots qui sortent de ma bouche m'étonnent moi-même, comme si mon corps savait des choses avant que mon cerveau les ait intégrées. Le docteur Pasquier affiche l'air satisfait du maçon qui a bien réussi son mur.
Vous vous souvenez de notre première rencontre ?
Demande-t-il.
Je vous avais parlé des différentes étapes du deuil. L'acceptation est la dernière.
Je ne suis pas sûre d'y être vraiment, mais je commence à l'envisager sans avoir envie de me trancher les veines avec une photo de lui. Il lâche un petit rire avant de reprendre son air professionnel.
Accepter de le laisser partir ne signifie pas arrêter de l'aimer. Pour cela, aucune thérapie ne peut vous aider. Seul le temps le peut. Je pense que votre idée de lui avoir envoyé des souvenirs était excellente. Et le fait qu'il le fasse à son tour l'est tout autant. Je le suggérerais à des patients dans la même situation.
Je touche une commission ?
Apparemment, vous êtes totalement guéri. Plus sérieusement, c'est une excellente idée, car cela vous a permis de revivre les moments forts de votre histoire et de les confronter. Vous n'avez pas la même lecture des choses. Vous avez sans doute par instinct de survie conservé uniquement les bons souvenirs. Pour votre mari, c'est différent. Le drame que vous avez vécu a pris le dessus sur tout le reste.
Je me demande s'il m'aimerait encore si Ambre était là.
Nous ne le saurons jamais. Vous savez, deux couples sur trois se séparent après la perte d'un enfant. C'est dévastateur même chez les personnes les plus profondément attachées l'une à l'autre. La perte d'un enfant, c'est la disparition de projets, le chamboulement de la structure familiale, l'anéantissement de son rôle de parent. Dans votre cas, vous avez tous les deux mis en place des mécanismes de protection. Vous avez développé une hypervigilance pour ne plus vous laisser surprendre, tandis que votre mari a fui la réalité. Vous n'avez pas traversé les étapes du deuil à la même vitesse, ni de la même manière. C'est tout à fait classique, mais cela entraîne un éloignement qu'il est difficile de résorber, même quand les mécanismes de protection cèdent.
C'est compliqué tout ça. J'ai l'impression d'avoir un ouragan dans la tête. Il y a des choses qui tournent en permanence en arrière-plan, parfois j'ai peur de devenir folle. Il me dévisage en caressant ses joues briochées.
Vous avez déjà nettoyé une piscine ?
Le docteur Pasquier et ses questions étranges. Non, pourquoi ?
Quand une piscine est sale, l'eau est trouble, opaque. Elle ne donne pas envie de s'y plonger. Pour la nettoyer, il faut d'abord frotter le fond, décoller toutes les saletés pour les faire remonter. Seulement alors, on peut les aspirer et les éliminer. Eh bien, vous êtes une piscine.
Je pense qu'il prend de la drogue.
Tous vos traumatismes remontent à la surface,
poursuit-il.
C'est long, c'est douloureux, mais c'est nécessaire pour pouvoir les digérer et leur laisser la juste place. Vous savez, il y a une chose dont je suis témoin tous les jours.
Il marque une pause comme pour donner de l'importance à ce qui va suivre.
Ce n'est pas parce que ça ne se termine pas comme vous le voulez que ça ne se termine pas bien.
Puis il répète plus lentement.
Ce n'est pas parce que cela ne se termine pas comme vous le voulez que cela ne se termine pas bien.
Je hoche la tête, consciente qu'il vient de me livrer une pensée essentielle.
Il n'y a que vous qui pouvez décider de tirer du positif de chaque événement. C'est la seule chose que l'on peut vraiment contrôler. Depuis plusieurs mois, vous vous autorisez à aller mal. C'est le seul moyen d'aller mieux.
Je regarde ses lunettes rouges, son polo rouge, sa montre rouge, et je me dis que tout le monde devrait avoir un Père Noël dans sa vie.
12 avril 2014. Tes parents nous avaient invités à déjeuner. Ils étaient très présents pour nous depuis le départ d'Ambre. Ça avait un peu adouci tes relations avec ta mère. Ton père avait mis les petits plats dans les grands. Il avait même sorti l'argenterie. Ton frère était là, ta sœur aussi, avec Jérôme, Milan et Sydney. Ta grand-mère Colombe était en bout de table. Ton père et ton frère ont raconté des blagues tout le repas. Ils faisaient de gros efforts pour nous faire rire. Ta mère te caressait les cheveux à chaque fois qu'elle passait près de toi. On sentait qu'elle avait envie de faire plus, mais qu'elle ne savait pas comment s'y prendre. Tu étais en forme. Je crois que je ne t'avais jamais vue aussi épanouie dans ta famille. » On venait d'attaquer le dessert quand ta sœur s'est levée et elle a dit qu'elle avait quelque chose à nous dire. Ses mains posées sur son ventre laissaient peu de doute sur la suite. Elle a regardé Jérôme et en chœur, ils ont annoncé qu'ils allaient avoir un bébé. Tous les regards se sont tournés quelques secondes vers toi, puis les acclamations se sont élevées. Tu es resté figé, un sourire factice collé sur ton visage, comme les moustaches des farzés attrapent. Tu as été la dernière à te lever. Mécaniquement, tu t'es dirigée vers Emma et tu l'as embrassée, puis tu t'es rassise. Je ne voyais que tes larmes qui se cachaient. Ce n'était pas fini. Ils ont dit qu'ils avaient quelque chose d'important à te demander. Ils en avaient beaucoup parlé et n'avaient aucun doute. Ils voulaient que tu sois la marraine. Vu tes rapports avec ta sœur, j'ai été soufflée. Ton père a toussé, Colomba ricané. Tu as ouvert la bouche, mais tes mots ne sont pas sortis. Alors tu t'es levée, tu as pris ton sac et tu es partie.